Washington Forum.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 9 mai 2024. Human Rights Watch met en garde contre un possible génocide au Darfour, province de l'ouest du Soudan. L'Union européenne joue la carte de la transparence dans le différend sur les minerais entre la RDC et le Rwanda. En République centrafricaine, les autorités se félicitent des progrès du pays en matière de liberté de la presse.
La liberté de la presse en République centrafricaine, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide.
Tita Samba Solé, président de l'Union des journalistes, nous parlera des défis de la presse centrafricaine dans la partie magazine. Microsoft ferme son centre de développement pour l'Afrique au Nigeria, ce qui entraînera des pertes d'emplois. Israël prévient, amis et ennemis, qu'il réalisera ses objectifs à Gaza et juge décevante la menace de Washington de suspendre la livraison d'armes à l'État hébreu. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence par le Tchad. Les résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle de lundi seront proclamés ce soir à 19h GMT, a annoncé la commission électorale, soit 12 jours avant la date initialement prévue dans son calendrier. Le scrutin s'est résumé à un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé par l'armée, président de transition il y a 3 ans, et l'ancien opposant, Succès Masra, rallié au régime militaire qu'il a nommé premier ministre au début de l'année. Au Soudan, une série d'attaques menées par les forces paramilitaires dans la région occidentale du Darfour soulève la possibilité d'un génocide commis contre des communautés ethniques non arabes. C'est ce qu'affirme l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié ce jeudi. Les précisions de Mohamed Oumfa.
Le rapport de 186 pages documente comment, de fin avril à début novembre 2023, les FSR, Forces de soutien rapide, et les milices alliées ont mené une campagne systématique visant à expulser, notamment en tuant, les habitants de l'ethnie massalite. Les violences, qui comprenaient des tortures de masse, des viols et des pillages, ont culminé à la mi-juin, lorsque des milliers de personnes ont été tuées en quelques jours et ont de nouveau augmenté en novembre. Human Rights Watch ajoute que les assaillants ont méthodiquement détruit les infrastructures civiles vitales dans les communautés déplacées, principalement de Massalite. Des images satellites montrent que depuis juin, les quartiers majoritairement massalites de la ville d'El Geneina ont été systématiquement démantelés, beaucoup à l'aide de bulldozers, empêchant les civils qui ont fui de rentrer chez eux. Selon l'ONG basée à New York, l'objectif apparent des attaques était au moins de les pousser à quitter définitivement la région, ce qui constitue un nettoyage ethnique. Human Rights Watch a appelé à une enquête et à des sanctions ciblées contre les responsables et exhorté les Nations Unies à élargir l'embargo sur les armes imposé au Darfour pour couvrir l'ensemble du Soudan.
La Somalie a demandé à l'ONU de mettre un terme à sa mission politique présente dans le pays depuis plus de 10 ans, à l'expiration de son mandat en octobre prochain. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, le ministre somalien des Affaires étrangères assure que les leçons apprises durant la présence de la mission continueront à guider les efforts du gouvernement. La MANUSOM a été créée en juin 2013 par le Conseil de sécurité pour soutenir les autorités dans la transition vers la démocratie et un état de droit après plus de 20 ans de conflits entre milices claniques, groupes islamistes et gangs criminels. L'Union européenne affirme être à la manœuvre pour que le protocole d'entente sur les minerais entre l'Union européenne et le Rwanda, conclu en février, tourne en faveur de la RDC. Le protocole d'entente avec le Rwanda avait provoqué la colère des autorités congolaises. Le point avec Eddy Sango.
L'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa l'a déclaré devant la presse à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée le 9 mai. Nicolas Berlanga Martinez reconnaît que l'Union européenne aurait dû expliquer davantage ou faire preuve de plus de sensibilité dans ces dossiers qui a eu un effet sur la perception des Congolais vis-à-vis de l'Europe. Il explique que l'Union européenne travaille avec Kinshasa pour que ses protocoles d'entente avec Kigali, focalisés sur la transparence et la traçabilité des minéraux, tournent en faveur du Congo. notamment par la reconnaissance que les systèmes de certification des minerais ont beaucoup de faiblesses, soutient Nicolas Berlangan. Pour lui, c'est le Congo, à l'origine de la plupart de ces minerais, qui doit être bénéficiaire d'une meilleure transparence. Kinshasa accuse le Rwanda de se cacher derrière les rebelles du M23 et de piller les ressources minières notamment de la région et considère ces protocoles d'entente comme une forme de complicité de l'Union européenne avec l'agresseur rwandais. Le président Tshisekedi l'a même qualifié d'ignominie. L'Union européenne avait signé avec Kinshasa fin octobre dernier un partenariat sur le chaîne des valeurs durables et des matières premières critiques et stratégiques. Mais elle attend le nouveau gouvernement congolais qui n'est toujours pas en place 4 mois après la réélection de Tshisekedi.
Au Nigeria, plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse ont dénoncé l'arrestation début mai du journaliste Daniel Ojukwu, qui a enquêté sur le détournement présumé de fonds publics par une ancienne collaboratrice de l'ex-président nigérien Muhammadu Buhari. Les proches de Daniel Ojukwu et ses collègues ont appris vendredi qu'il avait été arrêté et détenu par les forces de l'ordre à Lagos avant d'être transféré vers un poste de police de la capitale Abuja pour violation de la loi cybercriminalité, selon le CPJ. Microsoft, nous restons au Nigeria, ferme son centre de développement pour l'Afrique dans le pays le plus peuplé du continent, ce qui entraînera des pertes d'emplois, a annoncé hier le porte-parole de l'entreprise, Nathalie Barge.
Cette fermeture aura un impact sur certains de nos employés basés au Nigeria, a déclaré un porte-parole de Microsoft, soulignant que les ajustements organisationnels et des effectifs font partie intégrante de la gestion de l'entreprise. Le nombre de personnes susceptibles de perdre leur emploi n'a pas été précisé. L'entreprise high-tech a toutefois indiqué qu'elle va continuer à opérer au Nigeria en investissant encore dans les domaines de croissance stratégique. Le centre basé dans la capitale commerciale Lagos a été ouvert en 2022 dans le cadre des efforts de Microsoft visant à fournir des solutions d'ingénierie et d'innovation haut de gamme. En décembre 2022, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que l'Afrique représentait un vivier de talents en plein essor, contrairement à la croissance démographique en déclin dans d'autres régions du monde. Microsoft compte plus de 200 ingénieurs à Lagos au Nigeria et plus de 500 à Nairobi au Kenya.
L'aéroport international de Dias près de Dakar a été rouvert au trafic ce jeudi, quelques heures après une sortie de piste d'un Boeing opéré par Air Sénégal et en partance pour Bamako, qui a fait 11 blessés, a annoncé le gestionnaire de l'aéroport. Au Kenya, des milliers de personnes ont rendu hommage ce jeudi aux 61 personnes décédées fin avril de la rupture d'un barrage naturel dans le centre du Kenya lors d'une cérémonie dans la ville de Mayu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des représentants du Hamas palestinien et d'Israël ont quitté le Caire après 2 jours de négociations visant à obtenir une trêve dans la guerre en cours à Gaza depuis 7 mois, a rapporté ce jeudi le média Kerot, média Al-Qaïra, proche du gouvernement égyptien. Les efforts de l'Égypte et des autres pays médiateurs, en l'occurrence le Qatar et les États-Unis, se poursuivent pour rapprocher les points de vue des deux parties, a ajouté Al-Qaïra, citant une source égyptienne de haut niveau. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU estime difficile à entendre et très décevante la menace du président Joe Biden de cesser la livraison de certaines armes à Israël en cas d'offensive d'ampleur à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
C'est une déclaration très dure à entendre et décevante de la part d'un président à qui nous avons été reconnaissants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a déclaré Gilad Erdan. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU ajoute que cela donne de l'espoir aux ennemis d'Israël, citant le Hamas, le Hezbollah libanais et l'Iran. Le président Joe Biden a posé pour la première fois des conditions à la livraison d'armes à Israël, dont les États-Unis sont le premier soutien militaire. Si les soldats israéliens entrent à Rafah, je ne leur livrerai pas les armes qui ont toujours été utilisées contre des villes, a affirmé Biden, citant des obus d'artillerie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit être déterminé à lancer une offensive terrestre contre Rafah, où, selon lui, se cachent les derniers bastions du Hamas, mais où s'entassent aussi, selon l'ONU, 1,4 million de Palestiniens. Des représentants du Hamas et d'Israël ont quitté le Caire ce jeudi, après 2 jours de négociations visant à obtenir une trêve dans la guerre. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis se battent
pour approcher les points de vue des deux parties.
Les forces nucléaires stratégiques russes sont toujours prêtes au combat, a souligné aujourd'hui Vladimir Poutine lors de son discours pour célébrer la victoire soviétique contre Hitler. En pleine tension liée au conflit en Ukraine, le président russe a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge, pièce centrale du récit du Kremlin, exaltant la puissance du pays. Plus de 9 000 militaires selon des médias russes, des véhicules blindés, des lanceurs de missiles et des avions de combat y ont pris part. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Mali prévoit une production de 765 000 tonnes de coton-graines en 2024-2025, soit une hausse de 11% par rapport aux 690 000 tonnes prévues la saison précédente. De son côté, le gouvernement de Bamako a annoncé une augmentation des prix d'achat des producteurs de coton à 300 francs CFA par kilo contre 295 francs CFA actuellement. Il a également indiqué que les subventions sur les intrants seront reconduites, ramenant le prix d'un sac de 50 kg d'engrais minéral à 14 000 francs CFA contre 19 000 francs CFA actuellement. La société Savannah Energy, cotée à Londres, a accepté de racheter les 49% des parts de ses partenaires dans un champ pétrolier au sud du Nigeria pour 62 millions de dollars. L'accord garantira davantage de gaz disponible à la vente à la filiale nigériane de traitement et de distribution de gaz de Savannah, qui fournit environ un cinquième du gaz utilisé par les centrales électriques du pays. Savannah exerce aussi des activités au Cameroun et au Niger. Pour terminer, la production totale de gaz naturel de l'Égypte a chuté de 11,5% sur un an en 2023 pour atteindre environ 59,29 milliards de mètres cubes. C'est le niveau de production le plus bas depuis 2017, selon l'organisation Jodi.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Opération relance pour l'AS Douane dans la Basketball Africa League.
Oui, les hôtes sénégalais qui comptent une seule victoire en trois matchs jouent gros face au leader nigérien de cette conférence Sahara, les Rivers Hoopers, trois matchs, trois victoires. Mais bien avant, les Rwandais d'APR, deuxième avec deux succès en trois sorties, font face aux Tunisiens de l'US Monasti. Bon dernier, aucune victoire jusqu'ici. En jeu, deux tickets qualificatifs directs pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda.
Ici en NBA, New York fait le break face à Indiana.
Blessé en début de rencontre, la star des Knicks, Jalen Brunson, est malgré tout revenu sur le terrain en seconde mi-temps pour porter son équipe à une victoire 130-121 face aux Pacers. Brunson a fini avec 29 points et 5 passes décisives. Victorieux de leurs deux premiers matchs à domicile, les Knicks se rendront demain à Indianapolis pour le match numéro 3 de leur série. Toujours ici en NBA, Nikola Jokic des Denver Nuggets a été désigné MVP, meilleur joueur, pour la troisième fois après 2021 et 2022. Cette saison, le pivot serbe de 29 ans a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9 passes décisives pour Denver.
En football, le bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports se poursuit.
Le comité exécutif de la FECAFOOT a réaménagé le staff technique et administratif des Lions Indomptables, le sélectionneur Marc Brise, son assistant Joachim Mununga et l'assistant vidéo Gianni Siloris. Tous désignés par le ministre des Sports sont maintenus à leur fonction. En revanche, la FECAFOOT a retouché le reste du staff en désignant deux entraîneurs adjoints, Martin Tungu Pilé et David Pagou, et un nouvel entraîneur des gardiens de but, l'ex-champion olympique Idriss Carlos Kameni. La FECAFOOT a aussi désigné de nouveaux responsables chargés de la coordination générale de la sélection nationale.
Au Mali, le Real de Bamako a un nouvel entraîneur.
Il s'agit du Burkinabé Firmin Sanou, ancien sélectionneur adjoint des étalons du Burkina Faso, qui explique ses motivations.
Une découverte par rapport au football malien que je connaissais à travers les médias. Donc je pense qu'en venant ici, je vais connaître la réalité et je voulais savoir beaucoup de choses sur le mode de fonctionnement du football malien, à savoir que le Mali, c'est un pays voisin du Burkina. Et le Mali a réussi à sortir de très très grands joueurs qui ont joué dans des très grands clubs européens. Le Mali a eu le premier ballon d'or africain. Bon, je pense que nous, notre objectif, c'est d'arriver là, c'est voir le fonctionnement du Mali, comment ils font. avoir une autre expérience qui est autre que le football burkinabé.
Firmin Sanou, nouvel entraîneur du Real de Bamako, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Cameroun, l'on recherche encore les solutions à la pêche illicite afin de se débarrasser du carton rouge délivré par l'Union européenne. Cette sanction prise en janvier 2023 bannit les produits de la pêche du Cameroun du marché européen. Plus d'un an après, la sanction a des impacts sur la filière halieutique. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
C'est un avis battant pavillon camerounais qui a été impliqué dans les activités de pêche illicite l'an dernier hors des eaux camerounaises. La sanction de l'Union européenne a de l'impact sur les crevettiers nationaux qui ne ravitaillent plus que le marché local. Louis-Martin Oumoulanok, président de la plateforme crevette du Cameroun.
Si nous ne pouvons pas exporter, vous voyez quel impact ça. Les opérateurs vont être découragés parce qu'il y en a qui viennent pêcher au Cameroun uniquement pour l'exportation. Quand vous ne pouvez pas exporter, ils sont obligés d'aller voir ailleurs.
Certaines suggestions ont été faites au gouvernement pour la reprise des exportations vers l'Union européenne. Louis-Martin Imoulanok, président de la plateforme crevette du Cameroun.
Nous avons parlé d'abord de revoir la loi. La loi de 1994 était mixée. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur une loi spécifique pour la pêche. Revoir également l'amélioration sanitaire pour qu'il puisse nous donner l'avantage sur l'exportation de la crevette. Et nous travaillons également pour voir comment on peut labelliser la crevette camerounaise.
Mais la principale exigence de l'Union européenne porte sur l'immatriculation des navires qui battent pavillon camerounais et pratiquent la pêche illicite non déclarée et non réglementée hors des eaux camerounaises. Dr Badaï Eli, chef de la brigade du contrôle et de surveillance des activités de pêche au Cameroun.
Sur la lutte contre la pêche INN en 2023, nous avons reçu plusieurs notifications des pays comme des organisations qui nous ont permis d'interpeller 15 navires, de les notifier et de les sanctionner. Mais 4 ont été sanctionnés véritablement.
Le Cameroun doit aussi nécessairement bannir la réputation de pavillon de complaisance. Aristide Takoukam Kamla, président de African Marine Mammal Conservation Organization, ACO.
Le pavillon de complaisance, c'est le fait qu'un pays reçoive ou bien enregistre les bateaux étrangers sans prendre la peine de vérifier les antécédents de pêche et donc permet ainsi aux navires qui ont été chassés dans les pavillons d'autres États et viennent donc se réfugier dans le pavillon camerounais. Le Cameroun devenait donc un refuge pour les navires qui ne veulent pas se conformer à la pêche durable.
Les mécanismes de contrôle des activités de la pêche, dans et hors des eaux camerounaises, sont également une faiblesse à améliorer. Dr Badaï Eli, chef de la brigade de contrôle et surveillance des activités de pêche au Cameroun.
Nos textes sont faibles. Nous avons relevé ces écarts-là par rapport aux exigences internationales. Nos deux visites que nous avions au départ sont obsolètes. Il faut réhabiliter ces visites-là.
D'après les autorités, les équipements de surveillance satellitaire et de radar du Cameroun ont été piratés. D'ici la fin de l'année, le pays compte acquérir un nouveau système de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de la pêche. L'examen de la nouvelle loi sur la pêche par l'Assemblée nationale pourrait se faire quant à elle en juin prochain. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République centrafricaine, les autorités se félicitent des progrès du pays en matière de liberté de la presse. Dans le classement mondial de Reporters sans frontières, publié la semaine dernière, le pays est en effet passé du 98e au 76e rang sur 180 pays. Les professionnels de médias en République centrafricaine, de leur côté, sans remettre en doute les mérites de ce classement, décrit tout de même de grosses difficultés qu'ils continuent de rencontrer dans l'exercice de leur profession. Pour en parler, Sylvie Doris Soyekoumé a joint Tita Samba Solé, le président de l'Union des journalistes centrafricains.
La liberté de la presse en République centrafricaine, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. La liberté de la presse, telle qu'on la conçoit chez nous, c'est lorsque on regarde qu'il n'y a personne en prison aujourd'hui, personne n'est poursuivi pour son opinion. Mais ce n'est pas ce qui donne droit pour dire que nous travaillons dans une liberté assez sereine. Puisque personne n'a pris soin d'entretenir les journalistes, nous travaillons avec la peur au ventre, tout simplement parce que nous avons des menaces particulièrement qui viennent de la part des soldats, des hommes habillés. Tout cela ne nous donne pas le droit de crier sur le toit pour dire que nous travaillons avec la liberté.
Toutefois, la RCA vient de passer du 98e au 76e. Rang en termes de liberté de la presse sur 180 pays. Qu'est-ce qui explique cela?
Ça peut être une fierté de ce côté-là, ça peut être une fierté pour notre presse, mais comme je l'ai dit tantôt, cela n'implique pas ce qui se fait sur le terrain. Nous avons besoin d'avoir de la sérénité, nous avons besoin d'avoir du matériel pour travailler, nous avons besoin de couvrir toute l'étendue du territoire centrafricain pour être écoutés. Ça, ce sont des problèmes, mais je crois qu'on a tenu compte de ce que il n'y a aucun journaliste en prison, il n'y a aucun journaliste qui est mort pendant une période. C'est un peu pour cela que nous avons grimpé. C'est un honneur.
Vous avez énuméré beaucoup de difficultés. Quelles sont vos attentes?
Nos attentes, c'est que depuis que le pays est doté de ce moyen de communication, en commençant par la radio et la télévision, aujourd'hui les réseaux sociaux, nous ne faisons pas partie de la priorité du gouvernement. C'est le gouvernement qui mène la politique de la communication dans un pays. Et si on ne fait pas attention à cette frange de la société, je crois que c'est ça qui est notre problème.
Et si vous avez un message pour les professionnels de médias en Centrafrique, ce sera lesquels?
C'est de demander à tous les professionnels de médias de plutôt mériter le travail que nous faisons, quoique nous avons évoqué des difficultés. Nous traversons des moments assez difficiles pour la République centrafricaine. Je pense que nous pouvons, avec les moyens que nous avons, de vérifier les sources de l'information avant de balancer quoi que ce soit, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les journaux, etc. Donc, à mon avis, il faut respecter les règles de notre travail, la déontologie. Je pense que nous pouvons mériter encore mieux si seulement nous sommes sérieux dans ce que nous diffusons, soit à la télévision, à la radio ou sur la presse écrite.
Tita Samba Solé, président de l'Union des journalistes centrafricains.
La voix de l'Amérique, Bongi 101.7 FM.
Les autorités africaines chargées du numérique et des données sont à la recherche d'un marché numérique unique où des données sûres peuvent circuler à travers les frontières, ce qui peut aider à surmonter les obstacles aux affaires et au commerce sur le continent. Réunis à Nairobi au Kenya, les experts du numérique appellent les pays africains à créer et à mettre en œuvre des lois pertinentes protégeant les données des personnes et des entreprises pour favoriser la transformation numérique sur le continent. C'est un reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Des représentants des gouvernements africains en matière de technologie, de l'information et de la communication, des organisations internationales, des diplomates et des experts discutent à Nairobi de la manière dont les données peuvent circuler librement sans mettre en péril la vie privée et la sécurité des personnes. Pour le ministre kényan de l'information, de la communication et de l'économie numérique, Eliud Owalo, l'Afrique doit améliorer sa législation pour faire face aux nouveaux enjeux de l'espace numérique.
What will enable African countries to remain relevant?
Ce qui permettra aux pays africains de rester pertinents sur le marché numérique, c'est notre niveau de créativité et d'innovation, d'agilité stratégique et de manœuvre dans l'espace numérique. Cela signifie que nous devons continuellement, en fonction de ce qui se passe dans notre environnement opérationnel, examiner nos lois, nos politiques et nos réglementations, réfléchir à ce que nous devons faire.
Le rapport 2023 de l'ONDA, une organisation qui surveille les droits numériques, l'environnement et l'inclusion en Afrique indiquent que les fermetures et les perturbations de l'Internet, la protection des données, la désinformation, la cybersécurité, la surveillance et le manque de liberté d'expression et d'information ont un impact sur la croissance et la viabilité numérique du continent. Les experts affirment que les données jouent un rôle important dans tous les secteurs et que leur partage rend l'information plus accessible, accroît les collaborations et facilite l'échange de connaissances, ce qui conduit à l'innovation et à la croissance des entreprises et des relations entre les États. Paul Rousseau est à la tête du Kenya Commercial Group, qui opère dans 7 pays africains. Il estime que le débat sur le partage des données et la sécurité est important pour les entreprises qui opèrent dans différents pays africains.
Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau domaine que nous devons travailler ensemble à faire vivre, mais je pense aussi qu'il est important que nos propres entreprises soient durables. Au cœur de chaque entreprise, il y a les données sur l'intégrité, la confidentialité et la protection de ces données.
L'utilisation abusive des données inquiète de nombreuses personnes, entreprises et gouvernements dans le monde. Ces craintes continuent de susciter des débats sur la meilleure façon de sauvegarder, de réglementer, de contrôler et de tirer profit des données disponibles. Le chef de mission adjoint de l'Union européenne au Kenya, Andrzej Simek, a fait savoir que la protection des données nécessite un effort mondial et que les lacunes doivent être comblées par les moyens juridiques.
La première étape consiste à s'assurer que les lois sur la protection des données sont en place. La seconde est de les rendre opérationnelles de manière efficace. Il s'agit d'étapes essentielles vers le marché numérique unique de l'Afrique et vers un espace mondial d'échange de données en toute sécurité.
Alors que l'accès à Internet se développe sur le continent et que certains sont prêts à échanger des données, d'autres hésitent à le faire en raison de l'absence de cadre juridique régional pour guider le partage des données sans enfreindre les lois nationales. Les experts africains du numérique et des données espèrent surmonter les politiques et les lois qui entravent le partage d'informations et disposer d'une loi commune qui va faciliter l'échange des données à travers les frontières et au-delà.
Les États-Unis ont l'intention de suspendre l'expédition d'armes vers Israël. L'administration Biden avait averti début avril que le soutien américain aux efforts de guerre de l'État hébreu serait assorti de conditions, à moins que des mesures concrètes ne soient prises pour protéger les civils. Nathalie Bage relate un compte-rendu de Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche.
Alors qu'Israël a lancé son opération cette semaine à Rafah, dans le sud de Gaza, où se réfugient plus d'un million de civils, l'avertissement américain s'est concrétisé mercredi. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.
Nous examinons actuellement certaines expéditions d'aide à la sécurité à court terme dans le contexte des événements qui se déroulent à Rafah.
Certains groupes de défense des droits humains exigent depuis longtemps que les États-Unis mettent fin au transfert d'armes à Israël. La suspension a été saluée par les législateurs démocrates, mais critiquée par des républicains, dont le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham.
You want to micromanage the war?
Vous voulez micro-gérer la guerre? Nous avons largué deux bombes atomiques sur les Japonais après Pearl Harbor. Est-ce que quelqu'un en Amérique s'en est vraiment inquiété?
La livraison d'armes suspendues comprend 3500 bombes, dont 1800 lourdes. Les transferts de kits qui convertissent les bombes non guidées en munitions à guidage de précision sont à l'étude. Récemment, le président Joe Biden a souligné la complexité de son soutien à Israël.
Mon engagement en faveur de la sécurité du peuple juif, de la sécurité d'Israël et de son droit à exister en tant qu'État juif indépendant est à toute épreuve, même lorsque nous ne sommes pas d'accord.
Son administration a approuvé récemment l'achat d'armes pour Israël d'une valeur de 827 millions de dollars. Dans le même temps, il n'a pas respecté la date limite de mercredi pour soumettre un rapport au Congrès indiquant si Israël viole le droit humanitaire en utilisant des armes américaines. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.
Nous continuons à travailler pour finaliser le rapport. Nous prévoyons de le livrer dans un avenir très proche.
En pleine offensive à Rafah, dernier bastion du Hamas selon l'armée israélienne, les délégations palestiniennes et israéliennes ont quitté le Caire ce jeudi après deux jours de négociations avec les médiateurs américains, qataris et égyptiens visant à mettre fin aux hostilités et à libérer les otages détenus par le mouvement islamiste en échange de prisonniers palestiniens.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.